en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peut-on faire confiance aux historiens? C'est la question qui est le thème central de travail en cette année 2005. Thème de travail de l'Académie des sciences morales et politiques est décliné tous les lundis à 15h en séance publique au palais de l'Institut de France qui est Conti à Paris. Séance publique avec une communication présentée par un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, un membre de l'Institut ou une personnalité extérieure. Et en l'occurrence, le lundi 3 janvier 2005, c'est Monsieur Jean Béchler qui intervenait devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean Béchler, venu présenter une communication intitulée « Peut-on écrire une histoire universelle ?» Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Vous m'avez prié, Monsieur le Président, de chercher et si possible de trouver une réponse plausible à la question « Peut-on écrire une histoire universelle ?» Eh bien, vous vous réjouirez d'apprendre que je crois pouvoir vous donner satisfaction et que ma réponse concorde avec la vôtre. Non, il est impossible, ou presque, d'écrire une histoire universelle, et aucune personne dans son bon sens n'en formerait le projet. En effet, l'entreprise doit affronter des obstacles si évidents qu'ils n'échappent à personne, et si formidables que l'on ne voit pas comment il serait possible de les vaincre. Pourtant, l'unité de l'espèce et son historicité conjointe à l'exigence d'intelligibilité naturelle à l'entendement humain, impose de ne pas renoncer avant d'avoir épuisé toutes les ressources de l'ingéniosité rationnelle. Le règne humain exige que l'on écrive son histoire d'une manière d'autant plus pressante que le règne vivant produit la sienne avec la théorie néo-darwinienne de l'évolution et que le règne physique reçoit lui aussi son histoire avec les derniers développements de l'astrophysique relativiste et quantique. Si la cosmologie doit s'accomplir dans une cosmogonie et la biologie dans une biogonie, a fortiori l'anthropologie devrait être complétée par une anthropogonie, c'est-à-dire par une histoire universelle. Il importe par conséquent au projet même d'une science du règne humain de ne pas renoncer trop vite et d'explorer les issues promises par l'affirmation que l'entreprise est presque impossible. J'espère contribuer à entretenir l'espoir en soulignant trois impossibilités plus ou moins manifestes, en repérant pour chacune une issue théorique plausible et en proposant l'esquisse des développements auxquels elles conduisent. L'impossibilité la plus flagrante n'échappera à personne. On peut la présenter sous la forme d'un syllogisme. Les sciences historiques ont connu depuis 2 siècles des développements quasi exponentiels. Or, il est impossible à quiconque de maîtriser cette masse de données en expansion croissante. Donc, personne ne peut écrire une histoire universelle, car tout le monde en est trop ignorant. De fait, une expérience constante confirme que, en consacrant à l'étude du règne humain tout son temps et toute son énergie, on parvient au mieux à une connaissance assez précise de ce que l'on ignore, mais en aucun cas à un savoir positif qui autoriserait à proclamer « je sais et j'ai compris ». L'impossibilité peut encore être exprimée en avançant que le savoir historique accumulé est tel qu'il ne peut être maîtrisé que par segments discrets et par des spécialistes, et que, en conséquence, personne ne pouvant être spécialiste dans chacun des segments circonscrits, le téméraire ne pourrait être qu'un généraliste, c'est-à-dire un ignorant universel. L'issue ne saurait être trouvée du côté d'une évidence trompeuse qui chercherait à surmonter l'impossibilité en réunissant une équipe de spécialistes et en confiant à chacun d'eux le soin de rédiger un chapitre spécialisé. La somme des chapitres spécialisés serait une histoire universelle. L'issue est condamnée 2 fois. Le résultat, en premier lieu, serait éclectique et manquerait de l'unité de conception indispensable pour en faire une histoire une. Surtout, l'entreprise ne procurerait aucun critère de sélection entre ce qu'il faudrait retenir ou rejeter. Il faudrait restituer tout le savoir historique accumulé et produire un monstre informe. Une issue plausible, hors de l'impossibilité, peut être repérée en un quartier très différent. Partons des différents genres historiographiques disponibles et pesons leurs capacités respectives à aboutir à une histoire universelle. Le genre premier et fondateur est le genre documentaire, qui s'occupe de l'établissement des faits à partir des documents disponibles. C'est une affaire de spécialistes et d'érudits qui ne tolèrent ni l'amateur ni le généraliste, car le documentaliste ne peut, du fait de la productivité faible du cerveau humain individuel, se rendre maître que de dossiers très étroits et très circonscrits, si bien que personne ne saurait effectivement prétendre devenir le documentaliste de l'histoire universelle. Sur cette source commune à tous les genres, car il faut bien partir des faits, plusieurs genres peuvent être repérés, tous légitimes pris en eux-mêmes, mais si différents par les principes qui les régissent que l'on en vient à souhaiter pouvoir les désigner avec des mots différents. Le genre le plus connu et le plus répandu, celui auquel chacun pense spontanément en entendant le mot « histoire », je l'appelle l'histoire ou le genre romanesque. Il s'occupe de raconter des histoires en principe vraies et de donner au lecteur ou à l'auditeur l'illusion de les revivre comme s'il y était. Le genre réussit d'autant mieux que l'intrigue est plus serrée et que les détails sont plus vivants. C'est pourquoi il paraît très difficile, pour ne pas dire impossible, d'écrire un roman historique universel, car on voit mal quelle en serait la trame vraie, qui en seraient les héros vivants et quels en seraient les détails les plus évocateurs. La difficulté, et même à mon sens l'impossibilité, vient de l'antinomie entre l'universel et le singulier, qui ne pourrait être résolu dans ce cas que par l'invention d'un universel singulier. L'invention n'est pas impossible, puisqu'elle a été réussie par plusieurs auteurs et non des moindres. Bossuet a produit un roman théologique, Vico un roman mythologique et Hegel un roman métaphysique. On peut et on doit même admirer ces exploits de l'imagination humaine, mais il est aussi permis de douter que le résultat ait un rapport même lointain avec les faits documentés par le genre documentaire. Un autre genre historiographique que je qualifierais d'idéologique est à peu près aussi prolifique et ubiquitaire que le précédent. Il consiste à mettre les faits documentés au service d'entreprises politiques et, par conséquent, à les sélectionner et à les éclairer de telle manière qu'ils assurent convenablement leur office. Tous les manuels scolaires relèvent partout de ce genre. C'est pourquoi la vision que les gens ont de l'histoire est toujours marqué et biaisé au regard du voisin, même si les faits ne sont pas controuvés ou inventés. On sait que l'historiographie doit ses naissances et ses renaissances aux annales royales, au besoin de vanter la gloire du souverain, de souligner la grandeur de la cité, d'exalter les supériorités de la nation, et ainsi de suite. Une histoire universelle idéologique est rendue définitivement impossible par le fait que l'idéologie est de nature agoniste et suppose au moins deux antagonistes. Il faudrait que l'humanité entrât en contact avec des extraterrestres pour se retrouver dans le cas de pouvoir rédiger contre eux l'histoire de l'espèce humaine sur cette terre-ci. J'appellerai gnomique un genre historiographique passé un peu de mode, quoiqu'il ait dominé en Europe jusqu'à l'émergence des genres idéologiques, romanesques et surtout documentaires. Il se propose de tirer des histoires humaines des enseignements utiles pour les générations présentes et futures. C'est l'histoire conçue comme mine d'expériences instructives et comme école de sagesse. Une histoire universelle gnomique et concevable qui se proposerait de montrer que, l'espèce étant une, elle vit partout les mêmes expériences, dont il est possible de tirer toujours la même moralité. C'est un peu le projet de Voltaire dans son essai sur les mœurs. Ce n'est pas le meilleur ouvrage de l'auteur, moins parce que, comme pour Vico, l'état de l'histoire documentaire à l'époque condamnait toute tentative sérieuse d'histoire réellement universelle, que du fait que le projet tombe victime d'une contradiction logique. Si, en effet, l'espèce est une et que sa nature une s'exprime uniment, il n'y a pas d'histoire de l'espèce, ou du moins les matières incluses dans l'histoire universelle n'ont pas d'histoire. Il est bien vrai que la folie humaine est universelle, ou encore que les histoires humaines sont faites de bruit et de fureur, mais il en résulte qu'il n'y a pas d'histoire, ni de la folie humaine, ni du bruit, ni de la fureur. Si l'on s'intéresse à ces questions, il faut étudier la nature humaine et non pas l'histoire de l'espèce. Plus généralement, il ne peut pas y avoir d'histoire du même, mais seulement des autres issus du même. Je distingue un dernier genre et je l'appelle scientifique. Le point de vue change radicalement. Les histoires humaines révélées par la documentation deviennent autant d'événements et d'avènements dont chacun est susceptible de servir d'expérimentation, indispensable pour tester la validité d'une proposition tirée d'une théorie hypothético-déductive. Le règne humain est, dès lors, conçu comme un gigantesque laboratoire naturel à la disposition des chercheurs en quête de la ou des théories susceptibles d'expliquer pourquoi les contenus du laboratoire sont ce que les documentalistes constatent qu'ils sont. La position est l'analogue de celle des astrophysiciens, pour qui l'univers est aussi un laboratoire, sans doute plus simple et plus rustique que le laboratoire humain, un laboratoire utilisable aujourd'hui pour tester la mécanique quantique et la relativité générale, ou demain, d'autres théories encore à inventer. De même que le cosmologiste n'a pas à tout savoir sur chaque composant de l'univers, mais à trouver les phénomènes dont il a besoin pour vérifier ses hypothèses, de même l'historien universaliste n'a plus à être, dans cette perspective scientifique, le spécialiste de tout. Il lui suffit de se donner les moyens de trouver dans la littérature spécialisée les faits historiques dont dépend le sort de la théorie qu'il défend. Ainsi, il y a bien une issue hors de l'impossibilité documentaire, mais elle ne peut être empruntée qu'à la lumière d'une théorie. Quelle théorie ? Il revient à chacun de professer celle qu'il défend. J'aurais tendance à retenir aussi la proposition inverse, que toute théorie du règne humain doit être testée aussi par sa capacité à inspirer une histoire générale de ce règne. Alors, si vous me demandez d'avouer la théorie que je défends, Monsieur le Président, je vous la présenterai en une formule lapidaire. Dieu et ou la nature, ayant cru bon de faire apparaître sur l'arbre du vivant une espèce présentant ce caractère remarquable que, dans son génome, est codé non pas un programme actuel, mais un programme virtuel, dont les actualisations doivent être inventées, nous sommes génétiquement programmés pour parler, et non pour parler français ou chinois, cette espèce, libre au sens de non programmé, doit affronter un ensemble de problèmes de survie et de destination qu'elle est sans doute équipée pour les résoudre, mais au risque de le faire par le mauvais côté. En un mot, l'espèce humaine est libre, finalisée, rationnelle et faillible. Je propose que ces quatre caractères sont nécessaires et suffisants pour réussir à rendre intelligible l'historicité de l'espèce et inscrire cette intelligibilité dans des histoires. Hélas, cette conclusion favorable se brise dans le cas spécifique de l'histoire universelle sur une impossibilité nouvelle, moins évidente et plus grave. Elle ressort mieux à nouveau d'un syllogisme. On ne peut écrire une histoire qu'après qu'elle soit finie. Or, l'histoire universelle étant celle de l'humanité, elle n'est pas déjà achevée. Donc, on ne peut pas écrire une histoire universelle. La majeure repose sur le constat que les histoires humaines sont faites de myriades d'événements, d'épisodes et de circonstances qui courent dans tous les sens, et dont le sens dominant n'émerge que peu à peu et ne peut être saisi pleinement qu'à la fin et en rétrospection. Le constat ne doit pas verser dans l'erreur majeure qui consisterait à tenir que la fin atteinte, étant la seule possible, devait l'être nécessairement. L'erreur est mortelle car elle revient à évacuer la contingence des histoires humaines et à les transformer en systèmes déterministes, ce qui contredit frontalement la liberté de l'espèce. On peut donner au constat une tournure plus rigoureuse en avançant que les histoires humaines sont des systèmes chaotiques à attracteurs contingents. De ce fait, le chaos peut être ordonné seulement après qu'un attracteur se soit imposé, c'est-à-dire à la fin. Pour prendre une idée de la situation, il suffit d'observer le présent, qui est une histoire en voie d'émergence. Le sentiment de chaos incompréhensible domine la conscience. La mineure devrait être acceptée sans plus ample explication, car s'il est vrai que les conditions physiques de la vie sur Terre sont garanties pour plusieurs milliards d'années, l'aventure humaine n'en est qu'à ses débuts. Mais la contrainte de la majeure est si puissante que quiconque, s'efforçant d'embrasser l'aventure dans son déroulement complet, échappe mal à la tentation d'imaginer une fin de l'histoire. L'imagination peut suivre deux pistes, soit en inventant le parcours d'étapes successives, dont la dernière est déjà advenue, soit en projetant un aboutissement nécessaire qui peut être conçu aussi bien comme une catastrophe ultime que comme un accomplissement final. Dans l'un et l'autre cas, l'histoire humaine est pensée comme finie. Ce subterfuge permet d'esquiver la mineure du syllogisme et d'écrire une histoire universelle romanesque ou idéologique, mais certainement pas scientifique, car la science doit tenir compte des faits qui révèlent que l'aventure humaine n'est pas déjà finie et ne fait peut-être que commencer. La conclusion ne semble pas pouvoir être évitée, qui déconseille vivement d'entreprendre une histoire universelle impossible. On entrevoit pourtant une issue. S'il était possible de distribuer les histoires humaines en séquences discrètes et de ranger celles-ci en stades successifs, on se donnerait les moyens de définir des points d'aboutissement et de départ en forme de chaîne temporelle sans subir la contrainte de devoir déclarer la chaîne déjà parachevée. Rien n'interdit d'inclure la possibilité d'un nombre indéfini de maillons futurs et de prononcer qu'ils sont définitivement inconnaissables puisque les histoires humaines sont contingentes, c'est-à-dire ouvertes. L'issue permettrait de tourner la mineure sans la nier en posant le dernier stade atteint comme un aboutissement provisoire et non pas comme un point final. Voici où l'humanité se trouve rendue aujourd'hui et comment elle s'y retrouve, étant entendu qu'elle a encore devant elle un avenir inconnaissable. La documentation et les faits interrogés à cette fin sont encourageants sur un point et ambigus sur le point principal. Il ressort avec éclat des connaissances vérifiables accumulées depuis 150 ans, et surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, que l'humanité a subi une transition de phase majeure, débutant il y a 10 à 12 000 ans. Aucune personne un tant soit peu informée ne nierait aujourd'hui les différences profondes qui s'observent dans la condition humaine entre le stade paléolithique et le stade néolithique. Le premier a duré peut-être 100 ou 200 000 ans, mais la documentation n'est guère disponible que sur 25 000 ans environ. Le second a mis de 5 à 7 000 ans pour se développer et s'installer presque partout, sous la forme de 5 à 6 civilisations majeures, développées en 5 000 ans, répandues sur des aires d'environ 5 millions de kilomètres carrés et inclinant à l'inclusion dans des structures politiques adaptées à ces dimensions. L'ambiguïté porte sur le point de savoir si l'humanité a ou non atteint déjà un troisième stade inédit que l'on pourrait appeler l'âge moderne ou la modernité. Deux arguments sérieux plaident en faveur de sa réalité. L'un est la convergence et la confluence manifeste de toutes les histoires humaines vécues jusque-là dans la dispersion par des variétés culturelles de l'humanité poussées jusqu'au seuil de la quasi-spéciation. Convergence et confluence en une histoire humaine une, unifiée, est portée par l'espèce humaine en tant que telle pour la première fois. On peut dater le début du procès d'unification de la seconde moitié du XVe siècle et de la sortie des Européens hors d'Europe et son aboutissement de la période actuelle. Le second argument est plus délicat à peser. Peu de chercheurs contesteraient que, à partir du tournant des XIVe et XVe siècles, l'ère culturelle européenne a connu des émergences et des développements originaux, que ceux-ci peuvent être ramenés à cinq phénomènes fondamentaux, la démocratisation, la science, l'individuation, la différenciation des ordres d'activité humaine et le développement économique, et que, poussés à leur terme, ils impriment à la condition humaine une mutation aussi radicale que celle imposée à la condition paléolithique par la néolithisation. Une ambiguïté née de l'impossibilité de fixer avec une certitude satisfaisante le statut historique de la modernité et de la modernisation. Trois hypothèses distinctes sont possibles et plausibles, qui en font soit un faciès de la civilisation européenne, soit une civilisation inédite, soit un troisième stade de l'aventure humaine. Je soutiens cette dernière hypothèse comme la plus efficace pour comprendre et expliquer une infinité de développements repérables au long du dernier demi-millénaire et pour trouver un sens plausible à la situation actuelle de la planète et de l'humanité. En effet, si l'on accepte la thèse de la modernité comme stade, l'état présent du monde doit être analysé à l'aide de deux grilles distinctes, celle de l'unification des histoires et de la mondialisation et celle de la modernisation. Or, ces deux mouvements sont conceptuellement et historiquement disjoints, si bien que leur rencontre en ce moment même doit être prononcée contingente. Cette position présente l'avantage de tourner deux fois l'impossibilité opposée à une histoire universelle par le fait qu'elle n'est pas finie. D'un côté, l'unification et la mondialisation apparaissent sinon comme un aboutissement déjà abouti, mais comme le début de la fin de la marche de l'humanité vers son unité objective et subjective dans le cadre d'une planète politiquement unifiée et structurée. Si l'on considère l'aventure humaine à l'échelle des millénaires, c'est très évidemment le mouvement dominant, dont le fait que la planète soit un système clos permet de fixer le point d'aboutissement sans avoir à recourir au mythe, à la révélation ni à l'idéologie. Mais, de l'autre côté, la modernisation n'a aucune raison de donner le dernier mot de l'histoire universelle. Rien n'interdit de postuler un quatrième, un cinquième, un énième stade dont il est impossible de dire quoi que ce soit, pas plus qu'un paléolithique ne pouvait avoir la moindre idée des mondes néolithiques et qu'un néolithique ne pouvait avoir la moindre notion de la modernité. Ainsi, l'histoire universelle se trouve avoir une fin qui est aussi bien un commencement. L'hypothèse est peut-être fausse, mais elle abolit l'absurdité de l'entreprise sur ce deuxième point. Je suis ainsi conduit à la dernière impossibilité que j'ai décidé de retenir, la plus redoutable et la plus insurmontable selon les apparences, mais aussi la plus délicate à exposer en raison de sa complexité conceptuelle. Je réussirai peut-être à demeurer compréhensible en m'attachant aux trois termes de l'entreprise, une, histoire, universelle, et en montrant que chacun d'eux recèle une aporie apparemment fatale, dont pourtant il est possible de s'extraire par une démarche rationnelle. Une peut vouloir dire unitaire, mais tout aussi bien unique. Or, réduire l'histoire universelle à l'unité contredit manifestement les faits qui démontrent, au-delà de tout doute, quelle est la coagulation chaotique d'une multitude d'histoires chaotiques. Ramener ce maelstrom chaotique à l'unité ne peut être qu'artificiel et forcé. Considérer d'autre part cette histoire comme unique, c'est ou bien la définir comme nécessaire, ou bien la concevoir comme le produit contingent de hasard pur. La première branche de l'alternative contredit la liberté humaine et abolit l'historicité. La seconde, en privant l'histoire de son intelligibilité, rend par le fait même impossible toute historiographie, autre que purement documentaire, dont nous savons qu'elle est incompatible avec le projet d'une histoire universelle. Une hypothèse classique et négligée par une époque obsédée par l'économique permet de surmonter ce nœud d'aporie. Le politique est au cœur de la condition humaine et procure de ce fait la ligne directrice de l'histoire universelle. Je ne chercherai pas à démontrer ici le premier membre de la proposition et me contenterai de souligner qu'une démonstration rigoureuse et convaincante exige une théorie générale de la condition humaine, c'est-à-dire une sociologie explicite, qui, à son tour, exige une théorie de la nature humaine, c'est-à-dire une philosophie explicite, si bien qu'il se pourrait qu'une science du règne humain exigeât, comme le suggère le bon sens, des hypothèses dont il soit possible de déduire des propositions adressées pour vérification, à la fois et conjointement à la philosophie, à la sociologie et à l'histoire. Si l'on convient que le politique a pour fin la paix par la justice, on est conduit à construire trois concepts qui donnent la clé à la fois de l'unité et de l'unicité de l'histoire humaine. Le premier concept est celui de politi, ou policy, à savoir un espace social circonscrit dont ceux qui le composent sont décidés à résoudre les conflits qui les opposent sans recourir à la violence, mais par l'entremise de la loi et du droit. Comment faire ? La réponse définit le concept de régime politique comme la combinaison de dispositifs et de procédures appropriées à l'objectif de la paix par la justice. La catégorie d'appropriation conduit à distinguer de bons et de mauvais régimes, dont il est possible de préciser la typologie par le concept de pouvoir, qui est au cœur du politique et de ses régimes, puisqu'il y est question de gérer et de maîtriser la violence. Le troisième concept est celui de transpolitie, qui désigne un espace social fondé par la coexistence et la rencontre d'au moins deux polities. Puisque, par définition, une transpolitie est privée des dispositifs de la paix et de la justice, tout conflit entre polities peut dégénérer en guerre, que l'on peut considérer comme le quatrième concept du politique. L'application de ces quatre concepts à la documentation universelle, révèle immédiatement l'unité et l'unicité de l'histoire humaine. Elle permet de préciser l'intuition de Kant concernant l'unité. Pendant tout le paléolithique, l'état de chaque concept est ainsi défini que l'humanité régie par une démocratie très pure, ignore la guerre, vit en minuscule société close et se répand sur toutes les terres émergées sauf l'Antarctique, par des essaimages en taches d'huile. Durant le néolithique et pendant une dizaine de millénaires, les valeurs des concepts ayant été bouleversées, le mouvement s'inverse complètement. La guerre est née et impose sa marque à la condition humaine, le régime dominant et presque exclusif est la hiérocratie, l'appareil du pouvoir s'organise et se complexifie, la fiscalité et la kleptocratie prospèrent, les polities se matérialisent et se consolident, les transpolities font de même, chacune promise à l'unification politique par la guerre et la conquête. Le mouvement général est l'émergence, d'abord très lente et à peine perceptible pendant 5 à 7 000 ans, puis indéfiniment accélérée jusque dans ses dernières phases, de polities de plus en plus englobantes, jusqu'à prendre la figure d'empires gigantesques dans la seconde moitié du premier millénaire avant l'ère. Avec l'expansion européenne hors d'Europe, ces ensembles, dont la tendance spontanée et le repli sur soi, ont été forcés de communiquer, dont on peut tirer l'hypothèse que l'humanité est présentement conduite dans la phase ultime de son histoire politique, où la planète, après avoir été constituée en transpolitie, ce pourrait être la définition conceptuelle de la mondialisation, s'apprête à se transformer en politie, supprimant par le fait même la guerre. Contrairement à l'opinion la plus tenace et la plus répandue, la guerre n'est pas un propre de la nature humaine, c'est un produit culturel et historique qui a sa date de naissance néolithique et pourrait disparaître dans la modernité. La directionnalité politique de l'histoire universelle doit être préférée aux directionnalités techniques, économiques, démographiques, religieuses ou autres, en raison de la centralité du politique dans les affaires humaines, mais aussi parce que le politique reposant sur le pouvoir et la guerre, il est animé d'un dynamisme endogène qui, d'une part, permet de faire l'économie de forces ou de vertus mystérieuses, et, d'autre part, ne rencontre jamais aucun seuil dont le franchissement ne pourrait être expliqué de l'intérieur du politique. Par exemple, une fois construite une typologie des régimes politiques, il est toujours possible de concevoir les transformations des types les uns dans les autres et de préciser les conditions à réunir pour qu'elles puissent s'effectuer. Aucune autre hypothèse ne propose les mêmes avantages. Qui plus est, ceux-ci ne sont pas payés par l'élimination de l'unicité. À chaque moment du mouvement général, l'histoire a quelque chose d'irréductiblement unique. Au Paléolithique et pendant plusieurs dizaines de millénaires, l'humanité s'est retrouvée distribuée en une myriade d'ethnies minuscules, réunissant quelques centaines d'individus, et éphémères, avec une durée de vie de quelques siècles au plus. Or, sur un modèle à peu près uniforme, chaque ethnie était unique dans sa singularité. Chacune avait sa culture, sa langue, ses mythes, sa mémoire collective, son histoire. À l'étape suivante, l'unicité se retrouve dans la singularité tout aussi profonde de chaque grande civilisation. Chacune propose son mode spécifique d'humanisation, à la fois complète et particulière. Le caractère unique du mouvement de coalescence politique est révélé plus subtilement par le fait que s'il est toujours facile de prédire qu'une transpolitie finira en politie créée par la conquête et la guerre, il n'est jamais possible de prévoir qui sera l'unificateur. Un concours unique de circonstances, presque toujours mal documenté, explique rétrospectivement, une fois laissé transformer, pourquoi Qin l'a emporté en Chine, Magadha en Inde, les Perses en Asie antérieure, Rome en Méditerranée, Quito dans les Andes et personne en Europe. Quant à l'unification politique ultime promise au stade moderne, ou bien elle échouera par des péripéties imprévisibles, ou bien elle réussira par des voies inattendues. Dans tous les cas, une histoire unique finira par s'inscrire dans la réalité et donnera lieu aux historiens de mettre en œuvre leur ingéniosité et leur imagination. Histoire est le deuxième terme à considérer. Pour pouvoir être qualifié d'histoire, une séquence d'événements ne doit pas seulement se dérouler dans le temps, ce qui est soit tautologique, soit faux, si l'on soutient, comme il est licite de le faire, que la séquence crée le temps, mais elle doit encore être marquée par la contingence, au sens où elle aurait pu se dérouler autrement, ou pas du tout, et avoir été constituée d'événements différents ou autrement configurés. Une histoire ne peut pas être le développement nécessaire d'un programme inaltérable, car l'espèce humaine n'est pas programmée. Il est très remarquable que l'histoire du règne vivant se conforme de plus en plus aux exigences de contingence et d'imprévisibilité, et que même le règne physique reçoit une histoire non déterministe dans les derniers développements des théories. J'inclinerai volontiers à rattacher ces réalités et ces constats à une proposition métaphysique ultime, à savoir que les réalités dont le réel se compose sont ontologiquement contingentes, ce qui implique logiquement la réalité d'un absolu dont plusieurs versions sont plausibles et indécidables. La difficulté en ce qui concerne le règne humain naît de la quasi-impossibilité de respecter les exigences de contingence et d'imprévisibilité à mesure que l'histoire reconstruite gagne en universalité. En effet, l'universel humain n'a pas d'histoire, sinon biologique. L'espèce apparaît sur l'arbre du vivant, équipée de toutes les dotations indispensables à la réussite de l'humanisation. Les dotations n'ont pas d'histoire, seules en ont une, les mises en œuvre des dotations. Il en résulte que plus une histoire devient universelle, plus elle s'applique à l'humanité en tant qu'espèce, et moins elle doit retenir les caractères d'une histoire, et par conséquent, plus elle doit revêtir les caractères d'un système déterministe. C'est précisément pourquoi une histoire universelle évite difficilement de verser dans le roman, le mythe ou l'idéologie. La nature des choses et la réalité des faits proposent une issue presque miraculeuse hors du dilemme. Si l'on accepte la distribution de l'aventure humaine en trois stades hétérogènes, on doit admettre la réalité corollaire de deux seuils successifs, en l'occurrence entre le paléolithique et le néolithique, puis entre le néolithique et la modernité. Or, non seulement il est impossible de démontrer la nécessité du franchissement des seuils, mais tout indique aussi qu'il a été contingent. Sur le premier point, rien dans la situation des chasseurs-cueilleurs paléolithiques ne pouvait connaître des développements ni économiques, ni démographiques, ni politiques, ni religieux, ni même morphologiques, qui auraient posé des problèmes insolubles dans le cadre paléolithique. Il n'est pas permis non plus de plaider que, la situation néolithique étant décidément très avantageuse, le seuil a pu être franchi quelque part à la suite d'une percée locale et la divine surprise a conquis aussitôt l'humanité tout entière. Le plaidoyer tombe à plat doublement. Aucune percée décisive n'est repérable dans aucun domaine d'une part et le bilan néolithique est désavantageux à tous égards pour au moins les 4/5 de la population d'autre part. En ce qui concerne le second seuil, s'il n'est pas impossible de repérer dans les mondes néolithiques des esquisses plus ou moins caractérisées des 5 émergences qui définissent la modernité, nulle part ces développements isolés ne sont conduits à leur terme ni ne deviennent les fondations de constructions culturelles. Quant à l'émergence simultanée et interdépendante des 5 phénomènes, elle n'apparaît qu'en Europe à partir des 14e et 15e siècles. Sur le second point, concernant la contingence effective du franchissement des seuils, j'ai soutenu pour le premier la thèse de la contingence la plus extrême concevable, à savoir la fin de la dernière glaciation il y a 10 à 12 000 ans. Elle a petit à petit modifié les milieux et suggéré des adaptations dont les développements et les cumulations ont peu à peu créé des avantages virtuels susceptible d'être saisi par des acteurs placés en position stratégique. Il n'y a eu de percée sur aucun point, mais des changements incrémentaux et des modifications progressives, à la fois chaotiques et orientées par des attracteurs, c'est-à-dire par des aboutissements logiques et par des acteurs intéressés. Ces attracteurs, ces aboutissements et ces acteurs ont été avant tout politiques, et ce sont les développements politiques qui ont entraîné, sur une dizaine de millénaires, des développements économiques, cognitifs, morphologiques, religieux, techniques, en cascade et en interaction, jusqu'à bouleverser de fond en comble la condition humaine. Je propose de rapporter le franchissement du second seuil à une contingence proprement humaine et historique, à savoir que la néolithisation européenne a pris un cours aberrant dès les origines et l'a conservé de millénaire en millénaire jusqu'à l'émergence au tournant des 14e et 15e siècles, une fois de plus, d'une solution politique et transpolitique inédite. Non pas un empire, mais un concert des nations. Non pas un espace de guerre sauvage ni de paix civile, mais une quasi-politie oligopolaire, propice à la production abondante d'un droit international et d'institutions transpolitiques, comme l'Église et la République des Lettres, mais poussant aussi à la définition de régimes politiques caractérisés par une circonscription de plus en plus fine du public et du privé, ou de l'État et de la société civile. C'est dans ce cadre original que sont apparus, se sont développés, et ont produit leurs conséquences les 5 émergences signalées jusqu'à subvertir à nouveau et intégralement la condition humaine en ce moment même. Des 5 émergences, Je tiens la démocratisation pour la plus décisive au titre de condition fondamentale de possibilité, la différenciation des ordres pour la plus marquante par les empreintes qu'elle imprime à tous les départements de la condition culturelle, l'individuation pour celle qui porte le plus profondément et le plus gravement sur la condition humaine, la science pour la plus énigmatique, la plus contingente et la plus bouleversante de l'aventure humaine, et le développement économique pour une conséquence secondaire et probablement transitoire des quatre autres. Il reste une dernière aporie que j'aimerais pouvoir esquiver, tant elle est difficile et compliquée à résoudre. Universel doit être pris au sens d'un caractère qui convient à l'espèce en tant que telle, et non pas au sens d'un trait étendu à toute la population humaine saisie en un moment défini. Il pourrait, par exemple, se faire que tous les humains finissent par parler la même langue, mettons le swahili. Le swahili serait la langue commune, mais il ne serait pas universel au sens où le langage l'est, car le langage est inscrit dans la nature humaine et dans son support génétique, alors que le swahili ni aucune langue ne le sont. Une histoire universelle ne mérite ce qualificatif que si elle s'applique à l'espèce en tant que telle et à tous ses représentants, passés, présents et futurs, car une espèce du vivant se réalise dans les individus qui la composent. Mais, de rechef, l'universel humain n'a pas d'histoire, et encore moins une histoire unique. L'aporie est la plus sérieuse de toutes et celle qui résiste le mieux à tous les assauts. Elle exige, pour être surmontée, peut-être, un travail de création conceptuelle que je ne suis pas sûr de bien maîtriser déjà. Je me contenterai d'en indiquer la ligne directrice. Elle prend appui sur le concept de civilisation, défini comme un mode sub-universel d'humanisation droite, ou, ce qui revient au même, comme le mode le moins particulier possible, sans verser dans l'universel, capable de poursuivre avec rectitude les fins de l'homme. De là, il ne fait pas difficulté de poser que la nature humaine est la matrice de toutes les civilisations possibles, puisque celles-ci sont les actualisations historiques des virtualités inscrites dans la nature humaine. La solution de l'aporie consisterait à postuler que, entre la matrice humaine universelle et les civilisations sub-universelles, on peut définir et repérer des matrices culturelles qui soient à la fois humaines naturelles et particulières culturelles. Ces matrices culturelles seraient les stades de l'histoire universelle. Si l'hypothèse pouvait être consolidée et validée, on pourrait expliquer que la même humanité ait pu jusqu'ici extraire de ces virtualités trois matrices culturelles radicalement différentes et que chaque matrice simultanément soit partagée par l'humanité entière au stade considéré et donne lieu aux actualisations culturelles les plus diverses. La validation de l'hypothèse aurait les répercussions les plus profondes sur l'interprétation de la modernité, car en la définissant comme une matrice de possibles culturels et en considérant qu'elle a tout juste et à peine émergé dans la réalité, la vérité devrait s'imposer, au moins au titre d'hypothèse vraisemblable, que nous sommes aujourd'hui au tout début de l'exploration d'un monde culturel, d'une richesse et d'une diversité bien supérieures à celle de la matrice néolithique comparée à la matrice paléolithique. Notre perception de cette réalité et de cette vérité devrait être complètement brouillée par le fait que, aujourd'hui, nous percevons à peu près exclusivement la décomposition et l'évacuation des héritages culturels de la matrice néolithique, faute de pouvoir repérer déjà et encore moins imaginer les inventions culturelles de la matrice moderne. Somme toute, il ne fait guère de doute, Monsieur le Président, qu'il soit presque impossible de créer une histoire universelle, à la fois congrue dans sa conception et juste dans son exécution. Il faut effectivement avoir perdu le sens pour oser en entreprendre le projet. À vrai dire, je n'en vois qu'une justification raisonnable, en dehors des satisfactions que l'on peut trouver dans des efforts consacrés à l'impossible, donner en échouant l'occasion à d'autres plus heureusement dotés d'échouer moins, voire de réussir mieux.
C'était Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, lors d'une communication publique sur le thème de l'histoire. Peut-on écrire une histoire universelle ? Communication qui s'inscrit dans le cadre de l'année de travail de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis, année de travail déclinée, vous le savez, chaque lundi à 15h en séance publique. Jean Béchler, que nous aurons l'occasion de retrouver ultérieurement sur cette antenne et dont vous pouvez obtenir l'intégralité de la transcription du texte sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse www.asmp.fr.